Donc Genèse, Genèse au début. Donc on va voir la vocation dans la Bible et les appels dans la Bible, sachant que aussi vous, en vous mariant, vous répondez à un appel. Hein, et un appel à se marier avec telle personne. Ce n'est pas l'appel, la vocation au mariage en général, c'est la vocation avec telle personne. Donc vous répondez à un appel. Genèse donc 12, 1 à 3. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays et ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai, je magnifierai ton nom. Sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre. Voilà, donc cet appel lancé à Abraham, il y a plusieurs choses qu'on peut sortir et qui est valide pour toute forme d'appel. Premièrement, répondre à l'appel du Seigneur, ça veut dire quitter quelque chose. Et moi, je vous pose la question, à quoi vous dites non? La force de ton oui, c'est aussi la force de ton non. Qu'est-ce que tu quittes en étant en couple avec cette personne, en vivant cette histoire, cette relation? Qu'est-ce que tu quittes? Donc, quitte ton pays, la maison de ton père. Donc, c'est vraiment. Hein, c'est, et puis. Et puis, une autre chose, c'est par toi se béniront toutes les clans de la terre. Je trouve ça laisse penser que dans la réponse à l'appel, d'autres sont embarqués. Dans votre oui potentiel, après discernement, etc., eh bien, sont embarquées vos familles, sont embarqués vos amis, sont. C'est une démarche personnelle, mais c'est jamais une démarche solitaire. Rien dans l'Église n'est une démarche solitaire. Dans le oui du frère ce matin, eh bien, il y a aussi d'autres qui sont mis dedans, qui sont contenus. De même dans le oui d'Abraham, ben voilà, c'est d'autres qui sont contenus. Hein, je bénirai tous les clans de la terre. Donc ça, je pense que c'est. Et ça veut dire aussi que. Dans votre oui, il y a aussi une fécondité. Une fécondité. La fécondité, ce n'est pas qu'avoir des enfants pour un couple. Mais le fait déjà de vous engager intérieurement auprès de l'autre, ça permet une fécondité, que votre amour porte du fruit. Et c'est ça aussi, c'est prendre conscience que ça me dépasse. Hein, d'autres sont impliqués et ça me dépasse. Et du coup, voilà, ça c'est une. Ensuite, on va prendre un Genèse 17, 1 à 8. On ne va peut-être pas prendre tout parce que c'est un peu long. Genèse 17, 1 à 8. Alors, on va prendre. Attends, où est-ce que c'est? Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparaît et lui dit: Je suis El Shaddai, marche en ma présence et sois parfait. J'institue mon alliance entre moi et toi et je t'accroîtrai extrêmement. Et Abraham tomba la face contre terre. Le Seigneur parla ainsi: Moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations et l'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te fais père d'une multitude de nations, je te rendrai extrêmement fécond. De toi, je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta race après toi, de génération en génération. Une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta race après toi. À toi et à ta race après toi, je donnerai le pays où tu séjournes. Tout le pays de Canaan en possession à perpétuité, et je serai votre Dieu. Plusieurs choses dans ce passage où là, il y a premièrement la révélation d'une alliance. Alors je dis un tout petit mot, sur le sacrement, même si ce n'est pas une préparation au mariage, mais c'est quoi la définition de sacrement ? Hein, sacrement, c'est signe visible d'une grâce invisible. Vous avez le signe du pain et du vin, hein, qui sont la grâce, le signe visible de la grâce invisible du corps et du sang du Seigneur. Hein, et de même, dans le sacrement, vous avez ceux qui se marient à l'Église, ils sont le signe visible de l'amour de Dieu pour son peuple, de l'amour du Christ qui se donne pour son Église. Donc, dans sacrement, il y a signe visible. Il y a une alliance. C'est pour ça qu'il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce parce que l'amour, vous êtes en vous mariant, signe d'un amour qui est toujours à toujours. Donc, à moins qu'on décide qu'il n'y a pas eu mariage, c'est ce qu'on appelle les procédures de nullité, mais à moins qu'on décide qu'il n'y ait pas eu mariage, cet amour-là, il est de toujours à toujours. Maintenant, combien prennent conscience de ça, Epsilon ? Hein, beaucoup, c'est avoir la belle robe de mariée, et puis ensuite... ensuite, voilà, y avoir les photos. Mais comme il n'y a pas de vie spirituelle, il n'y a pas du tout de prise de conscience de l'alliance. Vous rentrez dans l'alliance de Dieu. Vous rentrez dans cette alliance faite déjà avec Abraham. Et que le Christ, vraiment la nouvelle alliance, le Christ est venu plénifier. Hein, donc c'est une alliance et vous êtes signe de cette alliance-là. Hein, vous êtes les signes visibles, vous comme fille jeune mariée, les signes visibles de cette alliance qui est elle invisible, qui est éternelle. Hein, et c'est pour ça que alors toutes les religions ne voient pas le mariage comme sacramentaire, sacramentel. Il y a la foi catholique et la foi orthodoxe, mais les protestants ne le voient pas comme sacrement. Dans le judaïsme non plus, c'est pas, dans pratiquement aucune religion, c'est un sacrement. Parce que toutes les religions n'ont pas de sacrement en tant que tel. Hein, dans beaucoup de religions, c'est on invoque la bénédiction. Il y a un rite de passage de célibataire à marié. En tout cas, pour faire la différence entre la personne mariée et la personne célibataire. Mais il n'y a pas cette dimension d'être signe d'une réalité transcendante. Du coup, on invoque la bénédiction de la divinité sur les fiancés, mais ils sont signes d'eux-mêmes, c'est tout, mais ils ne sont pas signes de quelque chose. Alors que dans le mariage à l'Église, c'est bien sûr qu'il y a la bénédiction nuptiale, mais ce n'est pas le cœur du sacrement. Le cœur, c'est vraiment l'échange des consentements. C'est ce consentement, vous consentez à vous donner totalement comme le Christ s'est lui-même donné pour nous. Et à vous recevoir et à vous offrir comme le Christ. Voilà, c'est cette dimension-là. Donc, et du coup, il y a un changement de nom, vous avez remarqué. Abraham, il devient Abraham. Le H, il vient d'où ? Il y a un H qui tombe dans son nom. Pose une colle là.
C'est pas le H de
Yahvé. Ouais, oui. De YHWH, du tétragramme, une fois de l'imprononçable. T'as commis pratiquement une abomination de la désolation là. Parce que là, tout juif pieux, ça se déchirerait les vêtements et se revêtirait de cendres. Parce qu'on ne peut pas prononcer le nom imprononçable. Mais c'est le H qui vient de YHWH, qui est le nom de Dieu. Dans l'Ancien Testament. Et donc, il y a un nom, une lettre du nom de Dieu qui est tombée dans son nom. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quelque part, il a fait une expérience de Dieu, cet homme-là, par l'alliance qu'il a scellée. Et cette alliance avec Dieu l'a transformée. Et moi, je pose la question, est-ce que le fait d'être avec une personne, vous a aidé dans votre vie spirituelle, ou au contraire, ça vous a éloigné du Seigneur ? Est-ce que le fait d'être avec l'autre, ça vous a rapproché du Seigneur ? C'est un bon critère de discernement aussi. Vous sentez que ça vous a éloigné ou ça vous a rapproché ? Si c'est vraiment un appel de Dieu, ben, il y a quelque chose du nom de Dieu qui tombera dans votre nom. Alors, votre nom d'état civil, ce sera toujours le même, rassurez-vous. Mais il y a quelque chose qui... Vous aurez fait une expérience spirituelle ensemble. Et je trouve que c'est important aussi de dire, voilà, il y aura une perception du Seigneur qui sera différente. Livre de Samuel, premier livre de Samuel, 3.
Samuel, où est-ce que c'est ?
Premier livre de Samuel, 3. Donc Samuel, c'est après le livre de Ruth, après les juges, après Josué, après le Deutéronome. Voilà. Et c'est bon, vous y êtes ? Premier livre de Samuel, parce qu'il y en a deux. Premier livre de Samuel, 3. Avant le livre de Roi. C'est l'appel du jeune Samuel.
Je peux répéter le chapitre
et verset. Premier livre de Samuel, chapitre 3, versets 1 à 19. Le jeune Samuel servait donc le Seigneur en présence d'Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là. Il n'y avait pas de vision qui perçait. Or, un jour, Élie était couché à sa place et ses yeux commençaient à faiblir et il ne pouvait plus voir. La lampe du Seigneur n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le sanctuaire du Seigneur, là où se trouvait l'arche du Seigneur. Le Seigneur appela Samuel et lui dit « Me voici ». Appela Samuel et celui-ci lui dit « Me voici ». Il courut vers Élie et dit « Me voici puisque tu m'as appelé ». « Je ne t'ai pas appelé », dit Élie, « retourne te coucher ». Il alla se coucher. Le Seigneur recommença à appeler Samuel. Celui-ci se leva, alla vers Élie et dit « Me voici puisque tu m'as appelé ». « Je ne t'ai pas appelé, mon fils », dit Élie, « retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas été encore révélée. Le Seigneur recommença à appeler Samuel. Il se leva, alla vers Élie et dit « Me voici puisque tu m'as appelé ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il dit à Samuel « Va te coucher et s'il arrive qu'il t'appelle, tu diras « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Et Samuel alla se coucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint présent. Il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit « Parle, car ton serviteur écoute ». Le Seigneur dit à Samuel « Je m'en vais faire en Israël des choses telles que les deux oreilles en tinteront à quiconque l'apprendra. En ces jours-là, j'accomplirai contre Élie tout ce que j'ai dit sur sa maison du commencement à la fin. » Bon, et puis toute une série de choses extraordinaires. Il reçoit une parole du Seigneur, ensuite une mission du Seigneur. Bon, ça, c'est intéressant. On va s'arrêter là. Donc jusqu'au verset 12, hein, c'est ça. Premièrement, j'allais dire, l'initiative de l'appel ne vient pas de nous. Nous répondons à un appel. Nous répondons à un appel, ça veut dire que vous avez, le fait de vous être découvert, le fait de vous devoir cheminer ensemble, etc., ça a été quelque chose qui vous est apparu, j'allais dire, parfois ça tombe dessus, un peu le cas des coups de foudre, etc., mais c'est important d'avoir un regard de foi sur votre histoire. En quoi vous voyez l'autre comme un don de Dieu ? En quoi vous le voyez comme une grâce qui vous est faite pour votre vie ? En quoi vous le voyez comme une miséricorde pour votre vie ? Donc, ce n'est pas nous qui sommes à la source. Même si c'est vous qui choisirez, mais c'est pas, vous n'êtes pas à la source. Et puis deuxièmement, alors je ne vais pas développer parce que je l'ai beaucoup développé dans le topo précédent, l'intermédiaire de quelqu'un pour discerner, la partie du conseil. La partie du conseil, bon, c'est ce qu'on a vu, on ne va pas y revenir, avec Élie qui dit voilà. Et puis ensuite la mission. Posez-vous la question, ce qui n'est pas une question facile, et à laquelle peut-être on répond sur le long terme, quel est le charisme de notre couple ? Quel est le charisme de notre couple ? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande ? Alors, c'est pas ça peut être juste dans le quotidien. J'allais dire, c'est pas forcément... quel est notre projet de vie ? En quoi et je crois un couple qui tient, c'est un couple qui bâtit une cathédrale. C'est quelque chose qui se met au service de quelque chose qui le dépasse, comme fonder une famille, par exemple, ça le dépasse. Hein, mais servir d'église, servir de la société, se mettre. Voilà, se dire ce couple-là qui se met au service, en quoi je suis appelé aussi à un service? Alors, dans certains de vos familles, la question du service, ben c'est dans votre ADN. Dans d'autres, non, vous découvrez. Mais en tout cas, l'appel est toujours un appel pour être envoyé en mission, pour se dépasser soi-même, pour aller au-delà de soi-même. Le prêtre, il n'est pas prêtre pour lui-même. Il n'est pas prêtre pour célébrer sa petite messe à lui perso tout seul. Parce que du coup, là, il s'est fait des gousi-gousi, il a plein d'émotions, il a les larmes qui montent aux yeux, etc. Et bon, non. Le prêtre, il est là pour la mission. Mais j'allais dire, c'est vrai pour toute vocation. C'est aussi vrai pour la vie matrimoniale. En quoi vous êtes appelé à quelque chose qui vous dépasse? En quoi et je dis ça parce que aussi même si vous n'en êtes pas là, le choix des lectures dans la messe, je pense que le choix des lectures guidez-le par en quoi cette lecture de la parole de Dieu va être une source pour notre couple. En quoi ça va nous aider, la parole de Dieu, elle est lumière. En quoi ça va éclairer notre chemin. Et du coup, vous dites à travers le choix des lectures, à l'assemblée qui est là, vous dites quelque chose de ce que vous voulez vivre. Et je trouve que les périodes où vous êtes peuvent être tout à fait propices pour ça, pour découvrir ce à quoi vous voulez aspirer. On va ensuite dans Isaïe. Isaïe, chapitre 6, verset. Alors, il faut que je vois. On va déjà. Isaïe, chapitre 6. Verset 6 et suivant. Chapitre 6, verset 6. Donc Isaïe a une vision, il y a ce qu'on appelle une théophanie, vous lirez les versets précédents, il a une théophanie, et du coup il a une vision, et ensuite il y a l'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et me dit, voici, ceci a purifié tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. Alors j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et je dis, me voici, envoie-moi. Il me dit, va, et tu diras à ce peuple, écoutez, écoutez, ne comprenez pas, regardez, regardez, ne discernez pas, appesantis le cœur de ce peuple, rends-le dur d'oreille. Englue-lui les yeux de peur qu'il ne voie, que ses oreilles qu'il n'entende et son cœur qu'il ne comprenne, voilà, et qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Bon, voilà, un truc impossible, comme toujours les prophètes, c'est toujours des vocations impossibles. Donc, du coup, cette vocation d'Isaïe, il y a plusieurs choses. Premièrement, juste avant ça, c'est, il dit malheur à moi, il se sent pas digne, Isaïe. Il se sent pas digne et souvent, il croit qu'il va pas y arriver. Malheur à moi, on voit au verset 5, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au sein d'un pays aux lèvres impures et mes yeux ont vu le Seigneur, le roi Sabaoth. Voilà, et ensuite l'un des séraphins purifie. C'est-à-dire que on est rendu capable, par la grâce du mariage, on est aussi rendu capable de poser. Il y a des. Voilà, c'est la grâce remplace pas la nature, ça on l'a bien vu, mais vous êtes rendu capable de pouvoir avancer. De vraiment, et d'où l'importance du bon discernement, de bien considérer la partie humaine, etc., tout ce que je vous ai dit, mais de pas perdre de vue, il faut vraiment les tenir les deux en même temps, pas perdre de vue qu'aussi vous êtes accompagné par la grâce de Dieu et rendu capable de répondre à son appel. Et du coup, voilà. Mais il y a toujours un sentiment, peut-être de ne pas être capable, de ne pas être à la hauteur. Une sorte de peur de l'échec, peur de. etc., qui peut parfois nous tarauder et qui. Des petits manques de confiance dans le Seigneur, etc. Je vous propose d'aller voir Jérémie. Jérémie, c'est après Isaïe. Jérémie, verset, chapitre 1, la vocation de Jérémie. Chapitre 1. Chapitre 1, verset 4. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Avant même de te modeler au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Comme prophète des nations, je t'ai établi. Et je dis, ah Seigneur mon Dieu, vraiment, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Mais le Seigneur répondit, ne dis pas, je suis un enfant. Car vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras. À tous ceux que je t'ordonnerai, tu le diras. N'aie aucune crainte en leur présence, car je suis pour toi, avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Alors le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche, et le Seigneur me dit, voici que j'ai placé mes paroles en ta bouche. Vois, aujourd'hui même, je t'ai établi sur les nations, sur les royaumes, pour arracher et renverser, pour exterminer et démolir, pour bâtir et pour planter. Voilà. Donc encore des missions assez improbables. Et ce qui est intéressant, c'est, voilà, ne dis pas que je ne suis qu'un enfant. Voilà, ne prétexte pas tes fragilités pour ne pas répondre à l'appel du Seigneur. Ne prétexte pas parce que tu es peut-être perfectionniste, parce que tu, il faut que, etc., pour... ne pas rentrer dans la confiance. Moi je n'interprète pas ce passage-là comme ça. C'est. Et puis, le Seigneur, ça revient souvent dans la Bible, il dit, je suis avec toi, je serai avec toi, je t'accompagnerai. Nous croyons en un Dieu qui intervient dans l'histoire, c'est quand même pas banal. Hein. On croit dans un Dieu qui intervient dans l'histoire, qui intervient dans l'histoire des hommes. Il intervient par des médiations humaines, mais il intervient aussi en faisant naître le désir et en nous rendant capables, en nous donnant des grâces qui nous emmènent au-delà de nos peurs, au-delà de nos limites, etc. Et donc, je trouve que c'est beau dans Jérémie, il y a cette dimension d'envoi et cette dimension aussi de confiance, malgré lui-même, il ne se sent pas à la hauteur, etc. Mais sachant que c'est toujours l'appel du Seigneur qui est là. Je vous propose d'aller encore dans Jérémie. Jérémie 20. Chapitre 20. Chapitre 20. Non, je suis dans Isaïe. Chapitre 20, 7 à 11. Voilà, Jérémie traverse une crise. Une crise de foi, si j'ose dire, dans le sens où il en a ras-le-bol d'être toujours traité mal, parce que forcément, comme tout prophète, il appuie là où ça fait mal, et du coup, il dénonce l'idolâtrie du peuple, etc. Et à un moment donné, il en a ras-le-bol de sa vocation. Et voilà ce qu'il dit. « Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé, tu as été le plus fort. Je suis prétexte continuel à la moquerie, la fable de tout le monde. Chaque fois que j'ai à parler, je dois crier et proclamer violence et dévastation. La parole du Seigneur a été pour moi source d'opprobre et de moquerie tout le jour. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais c'était en mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Je m'épuisais à le contenir, mais je n'ai pas pu. » Je trouve ça très beau, parce qu'il y a Jérémie qui a un moment de ras-le-bol. Et peut-être dans des vies de couple, peut-être marié, mais peut-être dans des... il peut y avoir une forme de lassitude. Mais je trouve justement de. Mais moi, il a ce moment-là, mais en même temps, il se reprend, il fait mémoire de l'appel du Seigneur. Il fait mémoire de ce qu'il a reçu, Jérémie. Hein, il fait mémoire, voilà, c'était en moi comme un feu dévorant. Oui, il y a peut-être des moments difficiles dans la vie de couple, et certains couples sont plus éprouvés que d'autres, que ce soit au niveau santé, relationnel ou professionnel, ou que sais-je. Mais on parlera demain de la question de la certitude intérieure, qui est capitale. C'est en faisant. Pourquoi elle est capitale? Parce que quand j'ai un moment de difficulté, la certitude, en faisant mémoire de cette certitude que c'était lui, c'était elle, eh bien, je peux avancer. Et donc, et c'est ce qui se passe avec Jérémie qui donc avance. S'était enfermé dans ses eaux et voilà. Il dit, je peux pas dire que le Seigneur m'a pas appelé. Comme on pourrait dire en couple, je peux pas dire que j'ai pas été amoureux de cet homme, cette femme, et de tout mon cœur et de tout mon être. Et que bon, même si aujourd'hui, pour X raisons, c'est difficile. Hein, d'où l'importance du discernement par ailleurs. Hein. Donc voilà, c'est Jérémie. Ensuite, on peut aller dans le Nouveau Testament. Marie, alors on peut aller dans Luc, l'appel de la Vierge Marie, l'évangile de Saint Luc, dans l'Annonciation. Luc 1. Versets 26 et suivants. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph et de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Avec cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Voilà, c'est intéressant ce passage où on voit un autre appel dans le Nouveau Testament, et on voit donc comment la Vierge Marie a été appelée par une visite extraordinaire d'un ange. Les anges existent parce que c'est des réalités spirituelles. Hein, Dieu n'a pas créé que des réalités simplement matérielles ou matérielles et spirituelles comme nous sommes, mais aussi des réalités exclusivement spirituelles comme les anges. Et j'en profite pour dire aussi d'invoquer son ange gardien. Je trouve que c'est important, ça aussi, la vocation de l'ange gardien, de savoir qu'il y a un ange, une réalité spirituelle, qui veille sur nous, qui a mission de nous soutenir, hein, pas seulement pour trouver une place de parking, hein, parce que ça, c'est vrai qu'on l'invoque de façon abondante au bout du 40e tour de pâté de maison, mais aussi pour le discernement, d'invoquer votre ange gardien, demander d'éclairer votre intelligence, justement, il y a cette mission-là. Et puis, une chose qui est intéressante, c'est Marie, l'ange entra. Alors, ça peut paraître anodin, mais je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que Marie était chez elle. Elle était chez elle, mais au plan aussi spirituel. Elle habitait son cœur. Ma question que je pose, où est-ce que vous en êtes dans la dimension contemplative de vos vies? Où est-ce que vous êtes dans une marche en avant, une course en avant, une hyperactivité, la peur de l'agenda vide? Où est-ce que vous avez des temps seuls? C'est pas parce que vous êtes en couple que vous n'avez pas des temps seuls. Vous vous retrouvez seuls, je trouve ça important. Et de la dimension, au fond, contemplative de vos vies, c'est-à-dire de ressourcement, de dimension de vie de prière, qui vous aide aussi dans ce discernement. Donc on voit que Marie, elle a pu discerner parce qu'elle habitait chez elle, elle était en elle. Hein. Et puis, forcément, elle lui donne une vocation suréminente, extraordinaire. Hein, donc c'est, l'initiative vient de Dieu, comme pour l'Ancien Testament. Et puis l'ange lui répondit, voilà, elle se demande, ben, comment est-ce que ça va se faire? Elle n'est pas dans une, comment dire, Marie, elle n'est pas dans un doute. Elle est dans une attitude d'accueil, mais elle se demande juste, comment est-ce que ça va se faire? Comment ça va s'accomplir? Et parfois, dans des vies, c'est comme ça, il y a des choses, on ne sait pas comment ça va advenir. Par exemple, quand il y a des relations qui sont bloquées, par exemple, avec les familles, ça peut arriver. Quand il y a des questions de santé, quand il y a des questions professionnelles, voilà, qui jettent quelque part un ombre sur le couple, une ombre sur le couple. Et voilà, des choses que vous... Comment cela va se faire, Seigneur? On a envie de cheminer, etc. On voit tel obstacle. Et c'est fréquent, ça. Et je trouve l'exemple de la Vierge Marie... C'était pas son appel au début, peut-être, elle n'avait pas cet appel-là à être la mère du Sauveur, etc. Je pense qu'elle n'avait pas forcément. Mais elle avait peut-être le désir de fonder une famille, Dodi, elle avait peut-être le désir de se consacrer au temple. Bon, mais elle s'est laissée comme bousculée par l'appel du Seigneur. Et puis ensuite, donc, comment ça se fait? Et du coup, ensuite, elle a un signe. Alors, la question des signes. Attention, parce que les signes, des signes pour pas tout mettre sur ma déclaration d'impôt, j'en ai beaucoup. Hein, et donc, parce que, et parfois même, je cache des revenus. Peut-être vous êtes encore jeune, vous n'avez pas beaucoup de revenus à cacher. Mais ceux qui ont peut-être plus de bouteilles, voilà, ont des revenus et on dit, mais non, si je mets tout. Et parfois même, on rationalise et on se dit, de toute façon, voilà. C'est l'État le premier voleur, donc c'est normal de voler un voleur. C'est normal. Bref, toujours est-il que des signes, il faut faire attention, parce que les signes, on verra demain plus à moins. Attention de ne pas s'inventer des signes qui nous arrangent, c'est ça que je veux vous dire. De ne pas se mettre des signes qui vont aller dans votre sens. Je ne sais pas quoi, parfois on pioche une parole de Dieu, vous voyez, dans des retraites, dans un panier. C'est pas quoi, mon père? On a pioché la même parole de Dieu. C'est un signe. Oui, ou pas. Voilà, je suis toujours... Alors, les communautés charismatiques, j'éteins l'enregistrement, mais les communautés charismatiques sont très... à avoir des signes partout. Alors, bon, ben, c'est très bien, ben, parfait. Bon, moi, je suis peut-être plus... Pas cette fois, certainement, mais bon, il y a des signes, je crois, des signes, que Dieu agit dans l'histoire, certainement, mais je... Voilà, le signe a besoin d'être validé par quelqu'un. Il a besoin d'être validé. Et là, elle a un signe. Ta cousine Elisabeth, celle qu'on appelait la stérile, est enceinte. Donc, fais confiance au Seigneur. Et il y a parfois des signes qui sont très clairs dans nos vies aussi. L'appel du Seigneur, hein, comme le frère Adolfo, là, ce matin, je ne connais pas son histoire de vie, visiblement, à plusieurs fois, le Seigneur a dû s'y reprendre pour taper à sa porte, pour qui se décide à une vie consacrée, peut-il envisager une vie matrimoniale, etc. Et puis bon, et le Seigneur l'a rappelé par plusieurs fois. Il y a des choses qui sont quand même très, très prégnantes, très émouvantes aussi, de l'action de Dieu dans nos vies. Et c'est là le regard de foi. Le regard de foi, c'est, on voit la réalité, mais pas simplement de façon horizontale. On voit la réalité en disant, pourquoi ça s'est produit? Pourquoi est-ce qu'on s'est rencontrés, nous? Parce que c'est aussi des rencontres complètement improbables, dans des lieux improbables. Je veux dire, on n'aurait jamais dû se rencontrer, je veux dire, parce qu'on n'était pas du tout du même groupe d'amis, parce qu'on n'était pas du tout du même milieu, ou de la même ville, ou j'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'on s'est rencontrés, finalement? Et du coup, d'où aussi avoir un regard de foi sur votre rencontre. De dire, ben, c'est peut-être un signe, c'est pas, après discernement, c'est peut-être un signe que... de s'être rencontrés et de cheminer ensemble. Bon, ben, ensuite, il faut voir, il n'y a pas que ça qui compte, mais d'avoir en tout cas un regard de foi là-dessus. Pour terminer, J'aimerais prendre dans Luc aussi le jeune homme riche, qui a un autre appel. Mais celui-ci, qui n'a pas, Luc 18, qui n'a pas été suivi des faits. Luc 18, versets 18 et suivants. Un notable interrogea en disant, « Bon maître, que me faut-il faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul des bons que Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » Tout cela, dit-il, je l'ai observé dès ma jeunesse. Entendant cela, Jésus lui dit, tout ce que tu as, une chose encore te fait défaut. Tout ce que tu as, vends-le et distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Mais lui, entendant cela, devint tout triste, car il était fort riche. Voilà un autre appel, mais qui n'a pas abouti. Où le Seigneur directement l'a appelé à se consacrer à lui, et il y a quelque chose qui l'a retenu. Il y a quelque chose qui a fait que il n'a pas. Il y a quelque chose à perdre. Je dis à quitter, à offrir, à ne pas se laisser. Voilà, duquel il faut se désapproprier. La vie matrimoniale, c'est aussi une forme d'arrachement. L'engagement, là aussi, on n'en parle pas. C'est une forme d'arrachement. On s'arrache parfois à peut-être un style de couple compensé, puis ce n'est pas du tout celui qui vient. On s'arrache à des amitiés trop fusionnelles ou à des... Voilà, il y a le fait... Et c'est ça qui fait la beauté de l'amour. C'est cette capacité de don, cette capacité d'offrande de soi-même, parce que je suis dans une logique de don de moi-même. Alors, je trouve c'est beau, ce jeune homme riche, voilà, il a été appelé, mais il a regardé plus ce qu'il possédait, c'est-à-dire que toutes ses sécurités humaines, il les a gardées, regardées, etc. Il les a préférées à l'appel du Seigneur. Il les a préférées, au fond, au cheminement de confiance que le Seigneur lui proposait.